Winston garda le silence un instant. Puis elle lui avoua sa perplexité. « C'est que je n'ai rien qui... Peut-être qu'ils ne vont pas ensemble, » dit-elle enfin. « Écoutez, si c'est un tueur à gages, comme le prétend le bureau, peut-être a-t-il exécuté 3 contrats différents, tout bêtement. Peut-être n'y a-t-il pas d'autre lien en dehors du fait que c'est le même type qui les a flingués tous les 3, mais chacun pour un contrat différent. » « C'est possible, » lui répondit McCaleb en secouant la tête. « Mais ça n'a pas de sens. En quoi Gloria Torres pouvait-elle être la cible d'un tueur professionnel? Elle ne faisait jamais que travailler dans un grand journal. » Et si elle avait vu quelque chose? Rappelez-vous ce que vous m'avez dit vendredi. D'après vous, il devait y avoir un lien entre l'affaire Torres et l'affaire Cordell. Eh bien, ce lien, c'est peut-être toujours le même. C'est-à-dire que tous les deux avaient vu ou savaient quelque chose? Il hocha la tête. Et les objets personnels, hein? Les trucs qu'il a piqués à Cordell et à Torres, insista-t-il en se parlant pratiquement à lui-même. Je ne sais pas, Terry, c'est peut-être un tueur à gages qui aime emporter des souvenirs. Et s'il avait eu à prouver à son commanditaire qu'il avait bien fait le boulot et ne s'était pas trompé de cible? Ces rapports font-ils état d'un objet qu'on aurait volé à Kenyon? Pas que j'aurais encore vu. Dans sa tête, c'était la grande pagaille. La question que Winston venait de lui poser lui fit comprendre que, dans son excitation, il l'avait appelé trop vite. Il avait toujours une pile de dossiers à lire. Que le lien qu'il cherchait s'y trouve n'avait rien d'impossible. « Terry ?» Oui, je vous demande pardon, j'avais la tête ailleurs. Écoutez, j'aimerais vous rappeler plus tard, j'ai encore des trucs à voir et il se pourrait... Des trucs? Quels trucs? Tout, je crois, enfin, presque tout ce que Spencer vous a caché. Et moi, je dirais que ça pourrait bien vous aider à rentrer dans les bonnes grâces du capitaine. Peut-être, mais ne lui dites rien pour l'instant, il faut que je réfléchisse encore un peu, je vous rappelle. Promis? Évidemment. Alors dites-le, je n'ai aucune envie que vous me jouiez un tour de con à la manière FBI. Eh, mais je suis à la retraite, moi, vous l'avez oublié? C'est promis. Une heure et demie plus tard, McCaleb terminait sa lecture. L'adrénaline qu'il avait sérieusement éperonnée un peu plus tôt s'était dissipée. Il avait certes appris beaucoup de choses en parcourant le dossier, mais rien qui pût établir un lien entre les affaires Kenyon, Cordell et Torres. Parmi les documents, il avait trouvé un énorme listing avec tous les noms, adresses et passés bancaires des 2000 victimes de l'effondrement de la banque de dépôt. Malheureusement, ni Cordell ni Torres n'avaient investi quoi que ce fût dans cet établissement. Le bureau n'avait pu faire autrement que de voir des suspects potentiels dans toutes les victimes du crack. Leur investissement avait été passé au crible, l'identité de chacun des déposants ayant ensuite été communiquée au sommier pour recherche de casier. Tout ce qui pouvait élever quiconque au rang de suspect avait été fait, une douzaine d'investisseurs se trouvant pour finir dans ce cas, avant d'être entièrement blanchis suite à une enquête serrée du bureau local dont ils dépendaient. Les recherches s'étaient ensuite orientées vers la théorie numéro 2, selon laquelle non seulement le fantôme de Kenyon existait, mais il aurait effectivement commandité l'assassinat de celui qui avait dérobé des millions de dollars pour les lui donner. La théorie avait pris de la consistance lorsque l'on avait appris que Kenyon était sur le point de révéler l'identité de l'inconnu auquel il avait fait parvenir les fonds de la banque de dépôt. À ce qu'affirmait alors son avocat Stanley LaGrossa, Kenyon avait décidé de coopérer avec les autorités en espérant que le bureau du procureur fédéral demanderait au juge de réduire la peine à laquelle il avait été condamné. LaGrossa déclarait même que le matin où il avait été assassiné, Kenyon et lui avaient prévu de se rencontrer afin de discuter les modalités de cette coopération avec les autorités judiciaires. McCaleb parcourut à nouveau la pile de documents et relut la brève transcription de l'appel téléphonique que Kenyon avait passé à LaGrossa quelques minutes avant de se faire assassiner. Ce qu'il s'était dit semblait confirmer les assertions de l'avocat. Exposé dans une annexe attachée au document, la théorie du bureau était en gros que le partenaire inconnu de Kenyon avait éliminé ce dernier parce qu'il ne voulait courir aucun risque, l'autre possibilité étant qu'il ne s'était résolu à le faire qu'au moment où il avait appris que son complice se préparait à coopérer avec les enquêteurs fédéraux. Dans ce document, il était ainsi spécifié qu'aucun agent ou procureur fédéral n'avait été approché par le camp Kenyon afin d'ouvrir les négociations. Cela voulait dire que si fuite il y avait eu en faveur du partenaire inconnu, elle ne pouvait venir que du côté de Kenyon, voire de LaGrossa en personne. McCaleb alla se verser le reste de jus d'orange qu'il avait acheté le samedi précédent et le but en se demandant ce que le dossier Kenyon apportait à son enquête. Des complications, ça c'était sûr. Malgré la montée d'adrénaline du début, il comprenait maintenant que, de fait, il se retrouvait pratiquement au point de départ et pas plus près de savoir qui avait tué Gloria et pourquoi, que lorsqu'il avait ouvert le paquet de Carruthers.